Je ne l'ai présenté qu'une seule fois dans mon assemblée locale et ça a intéressé les amis, je crois, et édifié aussi. Il est relativement difficile, pour moi d'abord, et peut-être pour vous aussi. Hier soir, nous avons vu à Beuil-Bezin le salut de Dieu dans toute l'Écriture. C'était un sujet, ce que j'appelle le sujet fondamental. Et ce soir, en partie aussi. J'aime bien les sujets de doctrine fondamentale parce que c'est le socle sur lequel notre foi repose. Et c'est peut-être plus difficile, surtout quand on est jeune. Mais il faut que les jeunes comprennent qu'on ne tient pas debout spirituellement en face de toute la puissance du monde et en face des épreuves de la vie, on ne tient pas debout spirituellement par une petite exhortation en par-ci par-là, mais par la vérité fondamentale de la parole de Dieu. La doctrine, toujours au singulier, les doctrines, c'est toujours les fausses, mais la doctrine, elle est unique, elle a plusieurs facettes, mais elle est tous les aspects de la doctrine, toujours au singulier, c'est toujours relié à Dieu et à la personne du Seigneur Jésus. Donc, les vérités fondamentales, la doctrine fondamentale, c'est le socle, c'est les fondations. Et on ne la pose pas une fois pour toutes dans la vie. Peut-être en avançant en âge, on revient toujours davantage à la doctrine fondamentale, aux pensées éternelle de Dieu. En face de toutes les pensées qu'on entend tous les jours dans le monde, il y a les pensées de Dieu. Et c'est celle-là qu'il nous faut. Et on verra que dans notre sujet, c'est pas tout, ça ne vient pas tout de Dieu. Mais il y a des choses qui viennent de Dieu et c'est celles-là qui sont solides. Alors, je partagerai les mystères en deux grandes catégories. Il y a les mystères bénis et les mystères, on pourrait dire, maudits, qui viennent de la puissance du mal. Dans les mystères bénis, il y en a deux que le Saint-Esprit qualifie de grand. Il nous faut faire très attention quand le Saint-Esprit qualifie quelque chose de grand. Nous, ça nous arrive d'avoir une appréciation exagérée d'une chose. Nous disons que c'est grand alors que ce n'est pas réellement grand, mais quand le Saint-Esprit nous dit quelque chose qui est grand, il nous faut faire très attention. Alors, deux mystères qui sont appelés grands, le mystère de l'incarnation et le mystère de l'Église. Donc, nous allons commencer par ces deux mystères. Et encore, je redis ce que j'ai dit hier soir. Je ne prétends pas venir vous dire des choses nouvelles, mais nous sommes là pour nous fortifier dans la foi, dans les pensées divines, qui nous sont très chères et que nous essayons de comprendre toujours mieux par le Saint-Esprit qui nous éclaire la parole. Donc, dans ce premier passage que j'ai lu, on voit ce mystère de la piété qui est grand. Le mystère de la piété qui est grand, Dieu a été manifesté en chair. Alors, ce passage est important aussi pour les jeunes, puisque l'apôtre Paul, dans les épîtres à Timothée, il écrit à un jeune relativement. On pense que Timothée avait 40 ans, ce n'est pas tout jeune quand même. Et il parle beaucoup de la piété. Il nous faut être des hommes et des femmes pieux. Un jeune peut être un jeune homme, jeune fille pieux, c'est-à-dire qui a des rapports avec Dieu, fait de deux éléments, la confiance en Dieu et la crainte de Dieu. C'est un peu nos deux jambes. On marche avec ces deux. Et on apprend que le secret, alors je n'ai pas dit encore en grec, secret ou mystère sont équivalents, donc j'emploierai secret ou mystère. Et le secret de la piété, c'est Dieu manifestée en chair. C'est-à-dire que notre piété ne se nourrit pas, encore une fois, d'une petite exhortation pratique ici et là. Non, 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 elle a une base beaucoup plus solide, notre piété. C'est Dieu manifesté en chair, c'est le mystère de l'incarnation. Alors, je n'ai pas encore expliqué en quelques mots ce qu'est un mystère, d'un secret qui était autrefois inconnu, enfin, dont la solution n'était pas connue. Et maintenant, dans la révélation, à partir de la venue du Seigneur Jésus et de la venue de l'Esprit, ces mystères, ces secrets, nous sont connus, ou je dirais partiellement connus. Restons dans les limites de notre humanité. Et nous sommes bien obligés de rester dans les limites de notre humanité. Même si nous avons le Saint-Esprit, même si nous avons la parole, on va voir que ces mystères gardent leur caractère de mystère. Et à commencer par ce mystère de l'incarnation, qui est très important pour nous, c'est-à-dire la double nature du Seigneur Jésus. Né d'une femme, mais par le Saint-Esprit. Comment expliquer ça? Nous ne sommes pas venus sur la terre de cette façon-là, nous. Nous sommes venus sur la terre par une relation de nos parents. Il faut un homme et une femme pour faire un enfant. Mais dans le cas de Jésus, non. Une femme a suffi. Marie a été le vase préparé par Dieu pour que le Seigneur Jésus vienne. La sainte chose qui naîtra sera appelée fils de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi, tu concevras dans ton ventre. Né de femme, né sous la loi. Donc Jésus, était conçu du Saint-Esprit, pourtant il est né comme chacun de nous, d'une femme, d'une mère. Et déjà, là, nous sommes dans ce mystère, mais nous sommes respectueux, nous ne comprenons pas tout, mais nous y tenons à ce mystère. Et puis, on ne connaît pas grand-chose de l'enfance de Jésus. Il est né à Bethléem et puis il a grandi à Nazareth, en Galilée. Était-il dans ses jeux comme les autres enfants de Nazareth? Saint-Esprit jette un voile pudique sur l'enfance de Jésus, sauf à 12 ans. À 12 ans, nous avons ce petit flash sur la vie de l'enfant Jésus, pour nous dire qu'il était déjà aux affaires de son père, pas de son père putatif, Joseph, mais de son père céleste. Donc déjà, il avait une relation avec Dieu. Mais le Saint-Esprit nous en dit pas plus. Il nous dit juste ce que nous avons à connaître de ce grand mystère, de la piété, de l'incarnation. Et puis, à l'âge de 30 ans, donc, le Seigneur sort de l'ombre. Jésus de Nazareth sort de l'ombre et va accomplir un ministère public pendant 3 ans et demi. Et là, on voit aussi cette double nature de Jésus. Je prends seulement un exemple. Quand il était dans la barque qui dormait sur le rayé, qu'une main charitable et pleine de tendresse avait mis là, à la poupe, il dormait sur un oreiller. C'était un homme. Un homme, il a besoin de dormir quand il est fatigué. Mais l'instant d'après, il se réveille et il dit à la mère, « Fais silence et tais-toi, c'était Dieu qui était là. » Bon, expliquez cela. Nous sommes là devant l'inexplicable, nous reconnaissons cette double nature de Jésus, mais il y a une part de mystère qui reste. Mais cela ne nous handicape pas. Il y en a qui veulent tout expliquer et ils partent d'un côté. Il y a eu des hérésies des deux côtés. Et aussi, certains disent, mais comment ça se fait que vous insistiez autant sur ce sujet de l'incarnation de Jésus et de la double nature de Jésus? Ah, mais c'est important pour nous. Parce que si Jésus n'est qu'un homme, eh bien sa mort sur la croix, c'est la mort d'un martyr, c'est tout. Il y a des milliers d'hommes qui sont morts sur une croix. On raconte que quand Titus a pris la ville de Jérusalem, il a crucifié des milliers de Juifs, qu'il manquait de bois pour faire les croix. Et puis jusqu'à Constantin qui a supprimé la crucifixion, c'était la peine capitale chez les Romains. Par exemple, quand il y avait des révoltes d'esclaves, dont la plus célèbre, celle de Spartacus, qui a fait trembler les légions romaines. Mais après, ça a été des représailles terribles. 5 à 6 000 Juifs ont été crucifiés tout le long de la voie Appia et de toutes les voies qui viennent à Rome. 5 ou 6 000 crucifiés. Mais aucun d'eux ne nous a sauvés de ces pauvres hommes qui ont subi le même sort que Jésus. Pourquoi Jésus nous a sauvés? Parce qu'il était Dieu. Ça change tout. C'est pour ça que nous insistons sur la double nature de Jésus. Et puis, par exemple aussi, 7 fois dans l'Évangile, il dit « Moi, je suis ». Aucun de nous ce soir peut dire cette parole « Moi, je suis ». La correspondante pour nous, c'est « Moi, je passe ». Mais lui pouvait dire « je suis celui qui suis », c'était l'Éternel de l'Ancien Testament. Avant qu'Abraham fût, je suis. Enfin, tous les évangiles sont pétris, on peut dire, et sont un témoignage et de l'humanité de Jésus et de la divinité de Jésus. Mais c'est remarquable comment dans l'histoire de l'Église, les deux ont été combattus. J'ai appris dernièrement que même l'humanité de Jésus a été combattue à un moment dans l'Église, sous l'influence du philosophe Platon. Platon disait « Le mal est dans la matière et le bien dans l'esprit ». Les chrétiens étaient influencés au 1er siècle, disant « Si le mal est dans la matière, alors Jésus n'a pas pu prendre un corps ». Et Jean, l'apôtre Jean, martèle pour faire face à cette hérésie. Jean, l'apôtre Jean, qui écrit à la fin du 1er siècle, dans son évangile, ses épîtres, Il dit « La parole devint chair », c'est-à-dire corps. Et dans son épître, il enfonce encore le clou, disant « Si quelqu'un ne confesse pas Jésus venu en chair, celui-là est l'Antichrist. » Bon, ça c'est... Voilà, il y en a qui niaient que Jésus était venu dans un corps. Mais d'autres niaient niaient sa divinité. Et peut-être le plus célèbre, enfin tristement célèbre, c'est cet évêque d'Alexandrie qui, en 321, du nom de Arius, prêche en public à Alexandrie que Jésus n'était qu'une créature. Et l'arianisme a empoisonné l'Église pendant plus d'un siècle. Il a été contredit, ça a été rectifié par le concile de Nicée, mais n'empêche que ça a continué. Et maintenant, qui c'est qui prend le relais de l'arianisme? Les témoins de Jéhovah. Et il faut pas oublier non plus que 1 milliard d'êtres humains, 1 milliard de musulmans disent que Jésus n'est qu'un grand prophète. Mais ça ne suffit pas, ça ne nous suffit pas. Ils sont à mi-chemin. Pourquoi je dis qu'ils sont à mi-chemin? En pensant à Jean 9. Jean 9, vous vous souvenez, l'aveugle-né, il a dit à un moment donné, « Mais c'est un prophète !» Et puis après, il a dit, « Mais c'est un homme pieux. Mais c'est un homme que Dieu écoute. » Puis à la fin, il a dit, « Mais c'est le Fils de Dieu. » Enfin, le Seigneur lui a dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Mais « Je crois, Seigneur, que tu es le Fils de Dieu ou Dieu le Fils. » Donc il a fait ce chemin, il est passé par le grand prophète, oui, mais il a continué. Notre prière, c'est que tous ces musulmans qui nous entourent fassent le pas jusqu'à Jésus, qui est Dieu. Quel grand mystère. Oui, c'est important de maintenir cela. C'est le secret de notre piété. Et il est grand, dit Paul à Timothée. N'oublie pas, Timothée, qu'il est grand. Et que dans la maison de Dieu, on maintient ce secret-là. Si on ne le maintient pas dans la maison de Dieu, où on le maintiendra? Alors, le deuxième mystère, c'est le mystère de l'Église. Alors, il y a plusieurs passages à lire. À la fin de l'Épître aux Romains, c'est la première fois que Paul en parle. Enfin, si on suit la chronologie des Épîtres. Dans les tout derniers versets de l'Épître aux Romains, verset 25, 16-25. Or, à celui qui est puissant pour vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, selon la révélation du mystère, à l'égard duquel le silence a été gardé dès les temps éternels, mais qui a été manifesté maintenant et qui, par des écrits prophétiques, a été donné à connaître à toutes les nations selon le commandement du Dieu éternel pour l'obéissance de la foi. Ô Dieu qui seul est sage, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire éternellement. Amen. Alors, dans l'Épître aux Éphésiens, au premier chapitre, verset 9, nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté, selon son bon plaisir, qu'il s'est proposé en lui-même, pour l'administration de la plénitude des temps, savoir de réunir en un toutes choses dans le Christ, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre. Un peu plus loin, chapitre 3, à la fin du verset 2, la grâce qui m'a été donnée envers vous, comment par révélation, le mystère m'a été donné à connaître, ainsi que je l'ai déjà écrit, en peu de mots, d'après quoi, en le lisant, vous pouvez comprendre quelle est mon intelligence dans le mystère du Christ, lequel en d'autres générations n'a pas été donné à connaître au Fils des hommes, comme il a été maintenant révélé à ses saints apôtres et prophètes par l'Esprit. Savoir que les nations seraient cohéritières en un même et d'un même corps et coparticipantes de sa promesse dans le Christ Jésus par l'Évangile. Verset 9. La grâce m'a été donnée d'annoncer parmi les nations les richesses insondables du Christ et de mettre en lumière devant tous quelle est l'administration du mystère caché des siècles en Dieu qui a créé toutes choses afin que la sagesse et diverse de Dieu soit maintenant donnée à connaître aux principautés, aux autorités dans les lieux célestes par l'Assemblée. Au chapitre 5, verset 29. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit, la chérit, comme aussi le Christ l'Assemblée. Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. C'est pour cela que l'homme laissera son père et sa mère et sera joint à sa femme, et les deux seront d'une seule chair. Ce mystère est grand. Mais moi, je parle relativement à Christ et à l'Assemblée. Dans les Colossiens, Colossiens 1, verset 25, « Je suis devenu serviteur selon l'administration de Dieu qui m'a été donnée envers vous, pour compléter la parole de Dieu, savoir le mystère qui a été caché dès les siècles et dès les générations, mais qui a été maintenant manifesté à ses saints. » Chapitre 2, verset 2. « Unis ensemble dans l'amour pour toutes les richesses de la pleine certitude d'intelligence et pour la connaissance du mystère de Dieu, dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Vous voyez, tous les passages, il y en a encore un dans les Colossiens, à la fin des Colossiens, chapitre 4, Chapitre 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillant en elle avec des actions de grâce, priez en même temps aussi pour moi, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, pour annoncer le mystère du Christ, mystère pour lequel je suis lié, afin que je le manifeste comme je dois parler. On voit cette insistance de Paul à parler de ce mystère. Mais de quoi il veut parler, Paul ? Du mystère de l'Église. Mais le mystère, l'Église, dans la pensée de Paul et dans la pensée de Dieu, ne peut jamais être tout seul. Et Christ est l'Assemblée. Et parfois, dans certains passages, je crois qu'il parle du mystère du Christ, mais ça englobe l'Église. Parce qu'on ne peut pas envisager l'Église sans le Seigneur. Il faut nous habituer à ça. Comme Paul, vous ne pouvez pas en parler sans parler de... Vous ne pouvez pas parler de l'Église sans parler de Christ. Et dans le premier chapitre, il parle de l'Église comme étant la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il y a quelqu'un qui a dit que l'Église, c'était la plus belle conception de Dieu dans l'univers moral. Et c'est probablement juste. Parce que quand Paul dit à la fin de ce premier chapitre aux Éphésiens que l'Église est la plénitude de celui qui remplit tout en tous, que peut-on ajouter à une plénitude ? Rien, puis c'est plein. Mais c'est la plénitude de celui qui remplit tout en tous, de celui qui remplira l'univers de gloire et de plaisir pour Dieu. Et c'est pourtant sa plénitude. Est-ce que vous avez compris ce qu'est l'Église par ce passage ? C'est la déclaration abstraite et absolue de ce qu'est l'Église. Mais si on n'avait que ce passage de fin d'Éphésiens 1 pour comprendre ce qu'est l'Église, dans cette définition abstraite et absolue, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, on comprendrait presque rien de l'Église. Alors, le Saint-Esprit nous a donné des images de l'Église. Et oui, on est comme un enfant, on a besoin d'images. Dans 1 Corinthiens 13, Paul dit « Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. » Et là, dans ce passage, il n'y a aucun reproche quant à l'enfance. C'est notre condition humaine, c'est tout. Alors quand j'en aurai fini avec l'enfant, je verrai face à face, je connaîtrai à fond. C'est dans notre dimension spirituelle, quand nous serons arrivés, nous connaîtrons en forme, mais là, nous sommes des enfants. Et des enfants, qu'est-ce qu'ils ont besoin ? D'images. Et le Saint-Esprit nous a donné des images. Alors, rapidement, les images que le Saint-Esprit nous donne de l'Église. La première, c'est un édifice, un bâtiment, donc un temple. Oui, une habitation, l'habitation de Dieu par l'Esprit, un temple, un édifice. Donc, une construction, comme ici, là. Et cette image véhicule certaines pensées concernant l'Église. Qu'il y a quelqu'un qui habite cette Église, c'est Dieu par son Esprit, l'habitation de Dieu par l'Esprit. Ça nous véhicule la pensée aussi que c'est composé de pierres. De pierres, et l'apôtre Pierre dira cette expression un petit peu surprenante, pierre vivante. Bon, pour parler que chacun qui compose l'Église a la vie. Là, ça dépasse l'image, parce qu'une pierre, s'il y a quelque chose qui n'est pas vivant, c'est bien une pierre. Enfin bon, il y a des images de l'Écriture qui dépassent la réalité sur la terre. La maison, l'Église, vue comme une maison, comme un édifice, véhicule la pensée qu'il faut un fondement à une maison. Et l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 3, développe cette pensée que Christ, le Seigneur Jésus, dans sa personne et dans son œuvre, est le fondement. Comme ici, ce bâtiment, il a des fondations. On ne les voit pas, mais elles sont importantes. Deuxième image, donc le corps humain, Alors ça, c'est une image que nous connaissons bien, puisque nous en avons chacun un corps. Véhicule la pensée que l'Église a la vie, c'est ce qui caractérise notre corps pour le moment, la vie. La pensée qui est véhiculée par le corps, c'est que nous avons une tête qui représente le Seigneur Jésus glorifié. Et de cette tête, de notre tête, part tout le commandement dans notre corps. Notre cerveau commande tout notre corps. Et s'il y a un dérèglement dans notre cerveau, tout le corps va en souffrir. Mais d'autre part, cette image du corps véhicule la pensée qu'il y a une interdépendance étroite entre les membres et la tête. Si je me pique un orteil, ce n'est pas l'affaire de l'orteil. La tête va réagir tout de suite. Donc, ça veut dire que chaque membre du corps est relié par le Saint-Esprit à la tête. La pensée du corps véhicule aussi l'image que l'Église, les membres du corps, chacun de nous est interdépendant les uns des autres. Mais dans la diversité, ma main ne ressemble pas à mon cœur. Mais les deux sont utiles. Il n'y a pas de membre dans l'Église qui soit inutile. La diversité dans l'unité. Troisième image, une femme et une épouse. Ce n'est pas tout à fait pareil. Une femme véhicule la pensée que l'Église est tirée du Seigneur Jésus. Mais voilà que ça se discerne pas dans notre langue en français. Il y a aucun rapport dans les termes homme-femme en français. Mais en hébreu, oui, ah oui, bien sûr. Ish et Isha. C'est étroitement uni. Isha vient de Ish en hébreu. Et c'est l'histoire de la Genèse. Ève, elle était tirée d'Adam. Et c'est une image de l'Église tirée de Christ. L'Église ne pourrait pas exister sans le Seigneur Jésus. Ève n'aurait jamais pu exister sans Adam. Et en 1 Corinthiens 11, ce n'est pas le couple là, c'est l'homme et la femme qui représentent, la femme représente l'Église et l'homme représente le Seigneur Jésus. Et si une femme a la tête couverte, elle représente l'Église soumise à Christ. Et les anges regardent cela, nous est-il dit. Vous avez pensé que les anges vous regardent? Si les anges regardent dans le monde, ils voient des gens soumis à Jésus-Christ? Pas du tout. Ils n'en ont rien à faire de Jésus-Christ, les hommes qui nous entourent. Mais quand ils voient une femme, il voit une image de l'Église soumise à Jésus-Christ. Et dans le passage des Éphésiens, Paul confirme la pensée que ces principautés et ces autorités, elles apprennent la sagesse de Dieu. Comment elles l'apprennent? En voyant l'Église. C'est pas rien. Nous enseignons les anges en permanence. Hein. Et chacun de nous, en principe, nous sommes soumis au Seigneur Jésus. Et ce n'est pas une petite affaire, ce n'est pas un petit témoignage pour les anges qui voient des hommes et des femmes et des jeunes soumis à Jésus-Christ. Et tous ensemble, nous formons l'Église soumise à Jésus-Christ. Moi, ce qui me frappe, c'est en Éphésiens 5, il est demandé qu'une chose à cette femme, là, vue comme une épouse, la soumission. Quel spectacle merveilleux pour les anges que de voir des hommes et des femmes, je le répète, soumis à Jésus-Christ. Et le signe en est une femme qui a la tête couverte. C'est Paul qui le dit. Et donc, en Éphésiens 5, c'est là que Paul dit que ce mystère est grand, le mystère du couple, en fait. Le mystère de l'Église m'est vu dans le couple. Alors, en 1 Corinthiens 11, c'est l'homme et la femme. Et dans Éphésiens 5, c'est le couple. Chacun de nos couples représente Christ et l'Assemblée. C'est pas rien. Et ça, c'est la pensée de Dieu à l'origine, quand il a fait un homme et une femme, le premier couple humain. Dieu était comme pressé à l'aurore de l'humanité de nous donner cette pensée tellement précieuse à son cœur, Christ et l'Assemblée. Un homme et une femme. Ève tirée d'Adam. Ève donnée à Adam. Mais venant de sa souffrance à lui, nous avons tout le mystère de la croix. Cette blessure sur le côté d'Adam, d'où il forme cette femme, Ève. Et c'est Éphésiens 5. Et cette image du couple va jusqu'à Apocalypse 21. Apocalypse 21, c'est la vision la plus lointaine que nous ayons. On touche aux confins de l'éternité et encore l'image comme une épouse ornée pour son mari. Décidément, Dieu n'a pas d'image plus sensible, plus douce, plus tendre à nous communiquer que cette image du couple, que nous vivons peut-être plus ou moins bien, ou plus ou moins mal, mais n'empêche que ça ne change rien à la pensée de Dieu. C'est la plus belle relation sur la terre. C'est la plus intime de toutes. Eh bien, c'est pour nous parler. Pour parler à des enfants qui ne peuvent pas comprendre notre langage. C'est précieux pour Dieu, puisqu'au début de la révélation, il nous parle de ça, de ce mystère. Et à la fin de la révélation, encore cette image. Mais le Seigneur Jésus aura cette église, cette épouse bien-aimée pour son cœur. Il nous faut méditer profondément ces images que le Saint-Esprit nous communique. Ce mystère est grand, le mystère de l'Assemblée est grand. C'est pas les frères qui disent ça, c'est le Saint-Esprit. Bon, il faut que j'avance hein, parce que ça risque d'être long. Ces deux grands mystères, on peut dire qu'on a les pensées de Dieu à l'état pur. Maintenant, ça va se dégrader. C'est dommage. Ça va se dégrader. Alors, dans Matthieu 13, là, je ne pourrais pas lire beaucoup. Je lis seulement le verset 10, à partir du verset 10. Et les disciples, s'approchant, dirent à Jésus, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Et lui répondant leur dit, « C'est parce qu'à vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. » Mais à eux, il n'a pas été donné. Je n'en lis pas plus. Il faudrait lire tout le chapitre. Là, nous sommes devant les mystères du royaume des cieux, avec les sept paraboles qui parlent de ce mystère du royaume des cieux. Alors, le royaume des cieux, qui dit royaume, dit deux choses, autorité et le corollaire, obéissance. Simplifions les choses. Donc, ça sous-entend qu'il y a une autorité, que cette autorité s'exerce et qu'il y a des gens qui obéissent, qui sont soumis. Des cieux, ça veut dire que c'est les cieux qui gouvernent sur la terre. Et si nous regardons autour de nous, dans le monde, si nous écoutons les nouvelles, si nous regardons autour de nous, est-ce que nous voyons que les cieux gouvernent ? Ah ben non, pas du tout. Ce qui gouverne, c'est les pensées humaines, la volonté humaine, la gloire humaine. C'est ça qui gouverne sur la terre. Alors pourtant, il nous est dit qu'il nous est parlé du royaume des cieux. Et voilà, c'est que les cieux gouvernent, oui, mais d'une façon mystérieuse. Et au travers de ces sept paraboles, on a ce gouvernement mystérieux des cieux. Alors là, c'est pour ça qu'on a du mélange, que ce n'est pas à l'état pur. Et je résume, ça c'est bien connu, la parabole la plus connue, c'est celle des quatre terrains. Le semeur, il sort pour semer, il sème la parole de Dieu et ça tombe sur un terrain ou sur un autre. Ça peut tomber sur le chemin, ça peut tomber sur les rocailles, sur les épines ou dans la bonne terre. Et on ne sait pas. Et on réalise souvent cela dans l'évangélisation. Vous donnez un traité à une personne, vous jetez un évangile dans une boîte aux lettres, vous ne savez pas dans quel terrain ça va tomber. Est-ce que la famille, est-ce qu'elle va être touchée par ce message? Pas sûr, on ne sait pas. On prie que ça soit le quatrième terrain, favorable, mais on ne sait pas, c'est un mystère. Et pourtant, l'œuvre de Dieu se fait. Nous avons foi que l'œuvre de Dieu se fait dans le monde, mais nous ne savons pas comment elle se fait. C'est un mystère. Et il faut, vous voyez, nous prions qu'elle se fasse, nous prions que le Saint-Esprit agisse, nous prions que des personnes soient ouvertes, parce que le Saint-Esprit, de toute façon, il veut toujours agir. Hein. Du côté de Dieu, il n'y a pas d'obstacle, puisqu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais il y a aussi la volonté de l'homme, comme le Seigneur le dit aux Juifs, j'ai voulu, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Il y a deux volontés qui s'affrontent, une volonté d'amour et une volonté rebelle, et jusqu'à la fin que celui qui veut. Donc le problème n'est pas du côté de Dieu. Et donc nous croyons que l'œuvre de Dieu s'accomplit dans cette ville de Pau comme ailleurs. Mais comment? Par quel chemin? Par quel chemin la terre sera labourée? Peut-être les épreuves de la vie, mais pas sûr non plus. Parce que si la souffrance amenait toujours les gens à Dieu, il y en aurait qui seraient près de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui souffrent. Ah, il y en a beaucoup qui souffrent. Mais la souffrance n'amène pas toujours vers Dieu. Au contraire, il y a des gens qui souffrent et qui se révoltent contre Dieu. Enfin, Dieu peut s'en servir. Mais comment c'est... Voilà, nous sommes devant ce mystère. Et donc après, on a la parabole de l'ivraie. Alors là, on a un autre aspect, c'est qu'il y a une semence, la semence de la parole de Dieu qui est semée, le blé, et puis il y a un ennemi qui sème la nuit de l'ivraie. Donc l'action de Satan est là aussi pour entraver l'œuvre de Dieu. Dans le premier aussi, on voit que les oiseaux prennent la semence. Donc une action de Satan contrarie l'œuvre de Dieu, et tout ça, c'est un mystère. Et dans la parabole de aussi du grain de moutarde, bon, on a ce petit grain de moutarde et c'est complètement normal qu'elle devienne un arbre. Donc c'est ce qu'est devenue l'Église, une puissance dans le monde, et surtout après Constantin. Et après est venu nicher des oiseaux, donc qui représentent une puissance spirituelle de méchanceté, qui s'est logée même dans l'Église. Donc là aussi, on voit un mélange. L'Église n'était pas... Dieu n'avait pas donné l'Église pour qu'elle devienne une puissance économique, politique dans le monde. Pas du tout. Elle a une autre mission. Et après, avec le levain dans la farine. Bon, le levain, c'est une image du péché dans toute l'Écriture. Je sais qu'il y a d'autres interprétations, mais quand même, il faut faire attention que partout dans l'Écriture... Le levain, ça a une connotation négative. Ça a fait enfler, c'est l'orgueil. Et au départ, la farine était bonne. Et il y a eu quelque chose qui a fait enfler, qui a détérioré dans ça. Et la septième parabole, les poissons, il y a les bons et les mauvais. Là aussi, l'œuvre de Dieu, il y a comme un triage. Et sauf, alors il y a deux paraboles parmi les sept où les choses sont à l'état pur. Le trésor dans le champ et la perle de grand prix. Et donc là, ça représente le travail de Dieu à l'état pur. C'est-à-dire, alors si je comprends bien, le trésor caché dans le champ représenterait plutôt le résidu terrestre, le peuple terrestre de Dieu. À la fin, il y aura quelque chose de pur pour Dieu. Et puis, la perle de grand prix, c'est, on peut voir, l'Église. La vraie Église, composée de tous les vrais croyants. Il n'y a rien, il y a rien de, de, n'y a aucun élément disparate dans cette perle. Elle est de grand prix. C'est l'Église pour le cœur du Seigneur. Il a vendu tout ce qu'il avait pour acheter l'Église, comme aussi pour acheter le résidu juif de la fin, parce que le Seigneur aura beaucoup de plaisir dans son peuple Israël repentant à la fin. Et comme aussi, il a beaucoup de plaisir dans l'Église. Mais pour ça, il a vendu tout ce qu'il avait, il s'est sacrifié à la croix de Golgotha. Donc on voit dans ce chapitre le royaume, Dieu gouverne dans le monde, oui, providentiellement, mais pas encore en puissance, hein, parce que sinon il mettrait de l'ordre. Ça arrivera un jour. Et je n'en ai pas parlé, mais c'est ce mystère du premier chapitre aux Éphésiens, que la pensée de Dieu, c'est de réunir en un toute chose dans le Christ. C'est-à-dire que Dieu veut que son Christ soit suprême sur la terre pendant 1000 ans. Et ça, c'est un secret, ça, pour nous. C'était un secret comme au temps de la reine Nathalie. Vous vous souvenez de la reine Nathalie qui faisait régner la terreur en Israël. Elle avait exterminé toute la semence royale. Et il y avait un secret. Il y avait un petit roi qui avait échappé, qui s'appelait Joas, et qui était caché dans la maison du sacrificateur de Jéhoïada et de sa femme Jéhoshéba. Ce couple pieux avait un secret, comme nous. Nous, on a un secret, et ils l'ont caché pendant 7 ans. Et nous sommes dans la période des 7 ans où le roi est caché dans le ciel, et il est caché dans nos affections. Qui sait dans le monde à l'heure actuelle que Jésus va régner pendant 1000 ans? Personne. C'est notre secret à nous, c'est notre mystère, le mystère du Christ. Dieu veut réunir en un toute chose dans le Christ. Il veut qu'il soit suprême pendant 1000 ans sur la terre, comme il est suprême maintenant dans le ciel. Personne ne doute qu'il est suprême dans le ciel. L'Apocalypse, par exemple, l'Épître aux Romains, l'Épître aux Hébreux nous dit 4 fois qu'il est assis à la droite de la puissance. À la fin d'Éphésiens aussi, on voit que Dieu l'a fait asseoir au-dessus de toute principauté et autorité dans le lieu céleste. Il n'y a pas de place au-dessus de celle que Jésus a reçue de la part de Dieu. Il n'y en a pas. Non, il est suprême dans le ciel et sur la terre, bientôt, il va l'être. Mais ça, c'est notre secret. À nous. Notre mystère. Donc, on a vu déjà dans ces mystères du royaume de Dieu un mélange entre l'œuvre de Dieu et l'œuvre de Satan et des hommes conduits par Satan, et si bien qu'on ne sait pas trop comment l'œuvre de Dieu se fait. Mais ça va encore se dégrader. Après la deuxième Thessaloniciens, on peut dire après l'enlèvement de l'Église, après l'enlèvement de l'Église, ça va se dégrader encore davantage. Chapitre 2, alors 2 Thessaloniciens 2, verset 3, que personne ne vous séduise en aucune manière en ce jour-là. Ce jour-là ne viendra pas que l'apostasie ne soit arrivée auparavant et que l'homme de péché n'ait été révélé le fils de perdition, etc. Verset 7, car le mystère d'iniquité opère déjà, seulement celui qui retient maintenant le fera jusqu'à ce qu'il soit loin. Alors sera révélé l'inique que le Seigneur Jésus consumera par le souffle de sa bouche et anéantira par l'apparition de sa venue. Donc nous avons noté le mystère d'iniquité opère déjà. Alors, ce qui retient, c'est... On a pensé que c'est la présence des chrétiens qui retient le mal encore. Il y a des chrétiens dans toute la couche de la société, partout. Heureusement qu'ils sont là, ils sont sel de la terre, le sel empêche la corruption totale. Mais celui qui retient, le Saint-Esprit est encore sur la terre. Donc ce qui retient, celui qui retient. Mais quand l'Église partira, que le Saint-Esprit partira avec elle, eh bien il n'y aura rien qui retienne. Et ça sera l'apostasie, le reniement de toutes les vérités chrétiennes, de tout le christianisme. Il s'élèvera contre, il s'opposera et s'élèvera contre tout ce qui est appelé Dieu ou même un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera au temple de Dieu et sera lui-même se présentant comme étant Dieu. Ce sera un orgueil monstre qui va se développer après l'enlèvement de l'Église. Mais Paul dit, ce mystère d'iniquité, il opère déjà. Et nous l'avons sous les yeux aussi, ça. J'étais un petit peu abasourdi d'apprendre que, par exemple, pour prendre un exemple, que ça, dans certains pays africains, comme au Brésil, les équipes de foot étaient liées au vaudou, au culte vaudou. Et dans certains cas, ils saupoudrent les cages de foot de substances, enfin, dans des rites idolâtres, pour gagner. L'amour de l'argent gouverne le monde. Il ne faut pas dire l'argent gouverne le monde. Non, non, parce que l'argent en lui-même, il n'est pas dangereux du tout. C'est l'amour de l'argent qui gouverne le monde. Les scandales, certains scandales reviennent à la surface, mais tous ceux qui sont en dessous, qu'on ne connaît pas. Et l'argent, l'amour de l'argent, c'est mammon. Et tout cela gouverne les hommes dans leurs relations. Et la violence, la barbarie est telle dans certains cas qu'on se demande s'il n'y a pas des puissances démoniaques derrière. Le mystère d'iniquité opère déjà. Enfin, c'est Paul qui l'a dit, mais ça va... Et quand même, c'est assez criant sous nos yeux aussi, cet orgueil démesuré des hommes. Donc, il faut être... les chrétiens sont avertis par le message de Paul. Et dans l'Apocalypse, on a cette même chose. En Apocalypse 17, il faudrait lire tout le chapitre 17, mais ça serait beaucoup trop long. Chapitre 17, et l'un des sept anges qui avait les sept coupes vint et me parla, disant, « Viens ici, je te montrerai la sentence de la grande prostituée. » Verset 3, « Il m'emporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête, pleine des noms de blasphème, ayant sept têtes et 10 cornes. » Verset 5, et il y avait sur son front de cette femme un nom écrit « Mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations. » Et je vis la femme enivrée du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit « Pourquoi es-tu étonné ? Je te dirai, moi, le mystère de la bête, de la femme et de la bête qui la monte et qui a 7 têtes et 10 cornes. » Ce qui est frappant dans cette histoire de cette femme qui chevauche une bête, c'est que Satan parodie Dieu. Nous avons vu qu'une femme, soit une femme par rapport à un homme, soit une épouse, est une image de l'Église, une image tendre, une image belle. Eh bien, Satan va produire une parodie de ça. Il y a une femme qui représente un système probablement religieux, qui est assise sur une bête, le pouvoir séculier, qui domine le pouvoir séculier. Et cette bête, cette femme, elle a tous les pouvoirs de Satan. On voit qu'elle est, à lire le chapitre, on voit qu'elle a un pouvoir satanique, cette femme. Dieu a-t-il représenté l'Église par une femme ? Satan fait de même. Mais son système à lui, contre Dieu. Et si on lit un peu plus loin, on voit que cette femme, elle représente un système qui a existé, enfin la bête qui est sous elle, un système qui a existé, un système qui n'a plus existé et qui va exister de nouveau. Est-ce que ça ne nous fait pas penser à l'Empire romain qui a existé et qui a cessé d'exister, depuis la chute de l'Empire romain, c'est 476, je crois, après Jésus-Christ. Et puis de nouveau, on voit se former ce marché commun, cette reconstitution de l'Empire romain, peut-être un peu plus au nord. Et où a-t-il été signé la constitution de l'Union européenne? Où a-t-elle été signée? À Rome, la ville aux sept collines, verset 9. Les sept têtes sont sept montagnes où la femme est assise. Enfin, bon, c'est complexe, hein, je ne veux pas vous épuiser et m'épuiser avec ce chapitre, mais on est quand même dubitatif. Quand on voit, enfin je ne l'ai pas vu en réalité, j'ai vu des photos, à Bruxelles, devant le Conseil des ministres de l'Europe, il y a une statue assez grande, en ferraille, une œuvre d'art, avec un taureau et chevauché par une femme. Et ça se retrouve aussi sur des euros grecs et sur des billets. C'est pas du tout... C'est commun. Hein. Alors on est dubitatif au niveau de l'Europe. Enfin, on ne peut pas tout expliquer, là. Justement, c'est un mystère. Faut lui laisser sa part de mystère. Mais une contrefaçon, moi, ce qui me frappe, c'est que Satan donne une image sous la forme d'une femme comme Dieu l'a fait. C'est une contrefaçon de la vraie Église. Mais elle sera jugée, cette femme, d'ailleurs, elle sera jugée par le pouvoir séculier. On voit que la bête secoue cette femme et la dévore à la fin du chapitre. Et puis, Babylone, la chute de Babylone, le système religieux, mondial, idolâtre, représenté par la Babylone, vous savez, la tour de Babel, eh bien, elle chute rapidement au chapitre 18. Tout le chapitre 18, c'est la chute de Babylone. Bon, je n'en dis pas plus, mais je ne vais pas m'arrêter sur un mystère aussi navrant, aussi terrible, mais qui aura lieu. Sinon, l'Esprit de Dieu, il dit des choses sérieuses, l'Esprit de Dieu. On n'explique pas tout, mais il y a des choses qui vont arriver. Et ce mystère d'iniquité, il opère déjà dans le monde. En terminant, je vais parler d'un dernier mystère, un beau mystère. 1 Corinthiens 15. Verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous ou nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera, les morts seront ressuscités incorruptibles et nous serons changés. Et il faut que ce corruptible revête l'incorruptibilité, que ce mortel revête l'immortalité. Or, quand ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, que ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, « La mort a été engloutie en victoire ». Où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô mort, ta victoire? Or, l'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, abondant toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Voilà un autre mystère. L'apôtre Paul, c'est un apôtre qui a reçu quatre grandes révélations. Alors, la révélation de l'Église corps de Christ, la scène, la résurrection des croyants et l'enlèvement des croyants, 1 Thessaloniciens 4. Quatre grands mystères, spécialement à Paul, et spécialement sous la forme de révélation, ce qui n'a pas été donné aux autres apôtres. Et en particulier cette révélation du mystère de la résurrection. Et c'est extraordinaire. J'en parlais hier soir. je ne sais pas si on peut l'estimer, parce que la population mondiale n'était pas du tout la même. Il y a eu une croissance exponentielle à la Pentecôte. Depuis la Pentecôte, ça fait une courbe qui n'est pas du tout régulière. Combien de croyants il y a dans la tombe par rapport à ceux qui sont vivants à l'heure actuelle? Vous avez réfléchi, ça? On ne sait pas, c'est difficile à dire. Hein, mais bon, il y en a des milliers, qui sont dans la tombe. Depuis les premiers, enfin, les croyants de l'Ancienne Alliance, mais depuis la Pentecôte aussi, une partie de l'Église est dans la tombe. Et nous disions hier soir, mais c'est ça le projet de Dieu, le propos de Dieu? Ah non, pas du tout. Il ne peut pas laisser les choses en l'état. La pensée de Dieu, c'est pas qu'il y ait la moitié de l'Église dans la tombe et les autres vivants. Il ne va pas les abandonner. Et nos bien-aimés, ils sont auprès du Seigneur quant à leur esprit et quant à leur âme, ça c'est sûr. Mais leur corps est bien dans la terre, on les a déposés un jour. Et leur corps est encore dans la terre. Et Dieu s'occupe du corps. Dieu tient-il au corps du croyant qui n'est qu'une enveloppe? Ah oui, il y tient, puisqu'il a ressuscité celui de Jésus. Et il ressuscitera ceux de tous les croyants. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu. La chute a touché le corps, comme l'esprit, l'âme. Il faut que la rédemption touche aussi le corps. Ça, c'est la pensée de Dieu. Mais c'est un mystère qui a été révélé à Paul. C'est un secret. Alors les gens, vous parlez de la résurrection autour, les gens se moquent. Vous croyez qu'ils vont sortir de ces tombes? Vous faites des illusions. Je vous dis, c'est un mystère. Notre foi est dans la parole de Dieu, même si nous sommes traités de fous. Qu'importe. Et d'ailleurs, il y a un autre mystère dans Timothée, je crois, le mystère de la foi. Et oui, c'est un secret, la foi, même si on paraît fou. Si on se promène, j'imagine une scène, on se promène dans un cimetière de famille avec un ami incroyant. On est respectueux dans un cimetière. Mais au bout d'un certain moment, l'ami nous dit, mais enfin, tu ne vas pas me dire que tes bien-aimés, ils vont sortir de ces tombes. De toute façon, personne n'est revenu. Ah ben si, justement, quelqu'un est revenu, Jésus, dans la lumière du matin de Pâques, c'est là mon assurance. Et si Dieu a tiré Jésus, il peut tirer tous nos bien-aimés, tous ceux qui sont morts dans la foi. Mais il n'y a pas seulement la résurrection, c'est qu'à un moment donné, quand Dieu ressuscitera tous les croyants, nous, si nous sommes en vie à ce moment-là, ce qui n'est pas sûr, on ne sait pas combien de temps nous sépare de ce moment-là, si nous sommes en vie, c'est les croyants qui seront en vie, seront changés. Nous ne pourrions pas monter en l'air comme le Seigneur l'a fait à Béthanie avec des corps comme nous avons. Parce que nous sommes soumis à la pesanteur, nous sommes soumis aux lois de la nature et nous ne pourrons pas nous élever, en tout cas sans moyen motorisé. Mais avec un corps spirituel, et Jésus avait un corps spirituel. Il avait une humanité, oui, une humanité, je crois, une humanité glorieuse. J'ai trouvé cette expression, une humanité glorieuse. Il reste un homme, mais dans une humanité autre que celle à laquelle nous sommes assujettis. Et il est parti, les disciples l'ont vu s'en allant dans les nuées en l'air, probablement on partira comme ça. Ben, je ne sais pas, c'est un mystère aussi. Hein. Mais la parole de Dieu nous dit ça. Nous ne nous endormirons pas tous, mais il va compléter dans 1 Thessaloniciens 4, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis, c'est-à-dire nous les vivants, nous n'aurons aucun avantage sur ceux qui sont morts. Ils ressusciteront d'abord et nous partirons à sa rencontre en l'air. Pour être toujours avec le Seigneur. Quel grand mystère, quelle merveilleuse chose. Mais si nous n'avions pas une révélation de la parole de Dieu, nous ne saurions rien. Nous serions en proie à toutes sortes de, de philosophie, d'idées, d'imagination, mais il ne faut pas laisser courir notre imagination, il faut que nous soyons éclairés par la parole de Dieu. C'est le fondement de notre foi, la parole de Dieu. Il faut que les gens autour de nous voient que nous nous fions à la parole de Dieu, à ce livre. Si on nous disait ce livre, il n'est pas valable, on ne peut pas s'y fier. Alors, ce soir, j'aurais perdu mon temps. Parce que je me fie à ce livre, et vous aussi. C'est notre trésor, la base de notre foi. Ce livre, nous le considérons comme la parole de Dieu. Et puis, notre foi a trois piliers. La fidélité de Dieu, la puissance de Dieu et la miséricorde de Dieu. Ça, c'est les trois piliers de notre foi. La fidélité, c'est-à-dire qu'il n'oublie pas. Sa puissance, c'est qu'il peut tout. Et sa miséricorde, parce que nous ne méritons rien. Qui mérite ici d'être enlevé à sa rencontre en l'air? Ben non, ça sera la dernière. Je crois que ce sera le dernier aspect de la grâce de Dieu. Espérez parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole.